radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à Trait d'Union, tout le monde, tout le monde. Il y a 34 ans et deux jours, 14 jeunes femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Mercredi, lors de la docu-pièce de théâtre Projet Polytechnique, on nous a lu la lettre qui justifiait les gestes du tueur. Vous le devinez, et comme vous suivez nos réseaux, vous le savez, on discute aujourd'hui de masculinisme, d'incel, d'Andrew Tate et tutti quanti. Quatre gars de deux générations sont ici. On a Clément. Salut, Clément.
Hello.
Victor.
Bonjour.
Flo.
Coucou.
Et Louis.
Salut.
Alors, on a de tous les âges ici. On a des Z. Toi, t'es-tu un Z, Louis?
29 ans. Je sais pas si...
Non, non, on est des millénials.
On est des millénials.
Sigma.
Bon, puis Flo,
moi, je suis un papier Z.
Toi, t'es... Non, t'es un alpha, mon cher.
Moi, je suis un alpha.
T'es un alpha, ben
hey, check
oui.
Ça.
T'es né après 2010?
Avant?
Ah, ben, t'es peut-être un jeune.
Né en 2007.
Je pensais qu'il y avait comme 12 ans.
Ben non, mais 16 ans. En tout cas, on a de toutes les représentations, puis j'y tenais absolument. Et on a évidemment des filles, parce que ça prend le pendant, tu sais. On a Ariane avec nous.
Allô.
Marie-Lou.
Oui.
Et France.
Allô.
Puis moi, ben, je peux parler un petit peu, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis notre entrée en matière, c'est... C'est Voldemort. Patrick Lagacé. Je poursuis. Patrick Lagacé a écrit le 1er décembre la chronique qui fait le lien entre l'émission de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui. J'ai trouvé. Puis il m'a permis de vous la lire au complet, fait que je commence maintenant. J'écris cette chronique à chaud après avoir lu le texte de Caroline Touzin dans la presse de vendredi, un texte sur trois employés de l'État qui témoignent de leur insécurité alimentaire à cause de leur salaire insuffisant. L'une d'elles commet l'impensable dans ce reportage. Elle pose à visage découvert avec ses gars, sous son vrai nom, c'est Pascale Castonguet, qui est technicienne en éducation spécialisée, une TES comme on dit dans le milieu scolaire. Madame Castonguet ne travaille que 30 heures par semaine et elle en travaille 24. Elle a travaillé 24 l'an dernier. Elle est précaire et en ce sens, elle n'a pas de permanence, pas de temps complet puis du chômage l'été. Dans le réel, la TES Castonguet n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle fait partie des 12 % d'employés de soutien scolaire qui ont eu recours aux banques alimentaires selon la CSN. Je disais plus haut que Madame Castonguet a commis l'impensable dans ce reportage de Caroline. Dans cette époque où des gens confient tout des agressions subies aux dépendances, révéler sa pauvreté est une sorte d'ultime tabou. Madame Castonguet le fait avec un courage évident. À propos des banques alimentaires, elle dit « C'est pas mal dur pour l'ego, mais j'ai pas le choix parce que mes ados ont faim, puis moi aussi. » Les deux autres femmes qui témoignent dans le papier le font anonymement, comme Nathalie, éducatrice en service de garde dans une école primaire. Pourquoi l'anonymat? Je cite ma collègue, dit-elle. Elle a demandé qu'on taise son nom pour une question de dignité humaine. Alors, je pose la question, pourquoi on accepte ça collectivement? Pourquoi on en est venu à accepter collectivement que des concitoyens tirent le diable par la queue de façon chronique? Pourquoi on accepte que des employés de l'État soient pauvres parce que les conditions de travail au sein de l'État, donc nous, les condamnent à la précarité? Ai-je écrit des employés? Parce que là, c'est écrit, bien entendu, « employé » et « accent aigu S » plutôt. Ben non, il faut ajouter un « e » parce que c'est des femmes. Globalement, ce n'est que des femmes. L'équité n'est pas atteinte, c'est sûr. Mais voyez, les universités, par exemple, par contre, les femmes dominent dans plusieurs facultés, comme la médecine. C'est formidable. Mais il y a encore des frontières à franchir. Dans les métiers qui ne demandent pas tant d'études, le contraste est frappant. Entrez dans la police à 21 ans, vous serez généreusement pensionné au début de la cinquantaine. Même chose dans une caserne de pompiers. Mais entrez au service de garde d'une école primaire et les conditions sont fort différentes. Nathalie, l'éducatrice en service de garde, a une réflexion lumineuse au sujet de l'écart des conditions entre les métiers féminins et masculin. Elle explique passer une partie de son travail dehors, beau temps, mauvais temps, sans une allocation pour ses vêtements d'hiver. Les uniformes des pompiers, celles des policiers, sont fournies. On dira que c'est un enjeu périphérique. Mais moi, ça, c'est Patrick qui le dit. Il n'est pas d'accord, moi non plus, d'ailleurs. Je pense que c'est parce que dans la vie, pas tout le temps, mais souvent, on a ce qu'on négocie, pas ce qu'on mérite. Force est de constater que les hommes négocient plus serré, hein? Un flash. Les profs supervisent des ventes de tablettes de chocolat pour financer des cours d'école dignes de ce nom. Comme un monde des pompiers qui font, en ce pays, des télétons pour se payer des lances d'incendie. Je le répète, dans les métiers dits masculins, on négocie de façon plus serrée. Je devrais même dire de façon plus musclée. Des pompiers ont déjà vandalisé les tuyaux quand les négos ne fonctionnaient pas à leur goût. Les policiers vont cesser de donner des tickets. Ils vont même jusqu'à manifester dans la face des députés avec leur gun. Ça s'est vu. Et ça imprime dans la mémoire du politique, ça. Peut-être que ça explique l'offre faite aux policiers provinciaux. Elle a été refusée, mais qui sait? L'école bleue a envahi l'hôtel de ville de Montréal sans jamais cacher leur envie d'en venir au coup pour faire plier les administrations de Montréal. Au privé, quand les journaux étaient des poules aux œufs d'or dans ce temps-là, des princiers échappaient des marteaux dans les presses quand les boss ne partageaient pas le butin, ce qui entraînait des coups faramineux. Mais ça se réglait. Les débardeurs des ports, ils prennent l'économie en otage en faisant la grève du zèle quand ils ne vont pas carrément battre des patrons dans des parkings. Salaire moyen d'un débardeur à Montréal, 150 000 piastres. Mettez ça bout à bout, puis ça donne des conditions de travail dans des métiers traditionnellement masculins qui sont de convention en convention, de décennie en décennie, meilleures que celles des métiers féminins à diplôme égal ou pas de diplôme du tout. Les femmes qui sont en grève en ce moment travaillent avec des humains. Nos enfants, des vieux, nos vieux, des malades, bien souvent. À leur immense crédit, elles ne font pas crever des solutés, elles ne vont pas vandaliser un appareil de résonance magnétique, elles ne vont pas envoyer les enfants dans le cours d'école sans surveillance, elles ne vont pas lire Tolstoï à des enfants de 8 ans en prétendant faire leur job pour protester contre des négos qui traînent en longueur. Leur levier, leur seul levier, c'est de sortir dans la rue puis en cet hiver, quasiment ou carrément, sans fond de grève. Je dis, lâchez pas, mesdames. Je finis cette chronique, c'est celle de Patrick. Je lis que le premier ministre Legault, en ce vendredi matin, 1er décembre, implore les profs de cesser leur grève sous prétexte de ne pas faire mal aux enfants. Hein? Foutaise! Quand il était dans l'opposition, c'est drôle, M. Legault avait toutes les solutions. PM, ben, qui se débrouille. Foutaise, bise! Ce qui fait mal aux enfants, c'est de négliger l'école publique comme l'État québécois le fait depuis des décennies. Et en cet automne 2023, la facture vient de rentrer sous la forme de débrayage, en forme de ras-le-bol des femmes qui tiennent les services de l'État à bout de bras. Évoquer le mal fait aux enfants, c'est de la manipulation. Voilà.
J'adore tout ce qu'il dit.
C'est fou, hein?
Moi, j'aimerais revenir sur une affaire, là. Lire du Tolstoï à des enfants. Tolstoï, c'est celui qui a écrit Tolstoï?
Non.
C'était mon gag sur Tolstoï, mais honnêtement, c'est un excellent article.
Moi, je trouve que ça résume tout.
Exact.
Tu sais, présentement, il y a eu les attentats à Polytechnique, on a fait les commémorations mercredi. Et avant ça, il y avait les 12 jours d'action qui est organisée par la Fédération des femmes, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et cette année, on parlait de précarité genrée, violences ignorées. Puis, tu sais, je pense que comme on en parle beaucoup plus maintenant, mais je veux rappeler aussi, là, depuis le 25 novembre, les femmes travaillent gratuitement face aux inégalités salariale entre les hommes et les femmes. On a ces grèves qui ne sont pas prises au sérieux. Moi, je suis dans le milieu universitaire. Je ne peux pas dire tous les débats que j'ai eus cette semaine parce qu'il y a des trucs sous embargo. Mais il y a des trucs en lien avec les grèves présentement, puis je ne comprends pas les réactions de certaines personnes.
Ah, moi non plus. Victor?
Mais aussi, ce qui est assez intéressant, qui est un peu mentionné dans l'article, là, justement, tu parles du milieu universitaire, mais les femmes, elles sont à peu près égales également représentées quand vient l'obtention du baccalauréat. Mais dès qu'on dépasse le baccalauréat, il y a une marge qui se crée qui est énorme. La différence des gens qui essaient d'avoir un postdoc, c'est majoritairement des hommes. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a tendance à les pousser directement vers le milieu du travail avec leur baccalauréat. Puis on dévalue de manière constante les milieux qui sont majoritairement étudiés par des femmes. On parle des études de genre, on parle des études féministes, on parle de la sociologie, où les femmes sont majoritairement représentées à l'étude post-baccalauréale. Puis ces champs d'études-là sont constamment, mais constamment attaqués dans les médias, puis constamment sous-financés, même menacés de sous-financement.
Ils sont même menacés, justement, de disparaître dans certaines universités.
Oui, je trouve ça trop avancé, mais il y a aussi tous les effets structurants autour de ça, les politiques parentales qui n'existent pas dans le milieu universitaire. Mm-hmm. On va s'entendre, quand on arrive au postdoc, on est autour de la fin vingtaine, début trentaine. À un moment donné, on veut des enfants aussi. Si on n'en veut pas, c'est correct aussi. Là. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, il y a ces effets-là. Il n'y a aucun support par rapport à la possibilité de prendre une pause dans mes études ou par rapport à la possibilité d'aménager mon cycle d'études avec l'idée d'avoir une famille. Il faut faire le choix entre avoir une famille et avoir des études actuellement. Puis ça, c'est déplorable. Je ne vais pas trop rentrer. Bref, c'est déplorable.
Ouais.
Puis nos universités peuvent définitivement faire plus qu'est-ce qu'elles en font présentement.
Oui, bien c'est ça. Quand tu as parlé de ça, justement, du baccalauréat qui était comme une fin en soi pour les femmes, bien c'est justement la famille qui est en cause. Mm-hmm. Ici, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à ça?
Bien, moi, ce que je trouvais assez intéressant dans ce qui était dit, c'était la partie où il disait, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on revendique.
Oui.
Donc, tu sais, c'est juste, si tu fais preuve de civisme, bien, tu auras moins que le reste du monde.
Exactement. Tu as tout à fait raison, parce que moi, en tant qu'ancienne enseignante, je l'ai vu. Les filles, oui, mais les élèves, oui, mais les élèves, ça revenait tout le temps. Puis j'étais une des rares qui disait, non, les filles, il faut tenir notre bout, là. Ouais. Mais les filles, ils sont pas prêtes à le faire. Louis, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben c'est un peu dans la même veine. Je trouve que dans les milieux de femmes, on est très, très rapide à mettre la responsabilité sur les personnes, puis utiliser la culpabilité, utiliser... tu sais, moi, je suis en travail social. Ils disaient, mais là, tu sais, si vous rentrez pas travailler, vous faites pas les choses, c'est les gens que vous aidez qui payent puis qui remettent toujours cette chose-là pour les lacunes, finalement, systémiques. Mm-hmm. Puis le désir de pas investir où il faut. Donc, c'est ça qui me frappait.
Oui.
Il y a plusieurs essais aussi qui démontrent que la société, elle n'est pas... Moi, j'étudie en sociologie. La société, les espaces publics sont pas créés pour les femmes, sont créés pour les hommes. La manière dont la ville est construite, le fait qu'il y ait des raccoins, le fait les femmes se sentent beaucoup moins en sécurité que les hommes, il y a des rapports qui le sortent. Le système scolaire aussi a été construit pour les hommes plutôt que pour les femmes, même si les femmes y réussissent plus, étrangement. Ça, à la base, ça a été construit pour ça. Fait que, tu sais, c'est...
Tu parles de l'édifice, des bâtiments?
Oui, ben, les effets structurants, là. Comment la société, elle a été imaginée présentement. Okay. Elle est imaginée, puis là, c'est les gens vont dire que je suis trop féministe, mais non. La société, elle a été inventée par des hommes et donc pour des hommes. Puis en fait, on pense pas à la manière dont les rues sont faites, la manière dont les espaces publics sont créés. Et il y a souvent un manque de lumière dans des parcs.
Oui, une déficience en lumière, ouais, ça, c'est sûr.
Ou genre des raccoins ou... En tout cas...
Mais si je peux rajouter aussi, tu sais, il y a un écrivain, James C. Scott, qui parle de l'urbanisme, puis comment l'urbanisme a été conçu. Puis il parle que l'urbanisme, c'est un travail qui vise à faciliter le transport de marchandises. Donc, qui vise à faciliter le fonctionnement du capitalisme. Puis le capitalisme étant majoritairement c'est une activité patriarcale, ben on peut comprendre justement qu'il y a cette non-considération des femmes puis des personnes marginalisées dans la fonction de l'urbanisme.
Bien, il y a un livre qui s'appelle « La ville féministe ». Là, j'oublie, c'est quoi le nom de l'auteur? J'essaie d'aller voir sur mon Goodreads en même temps, mais faire trois choses en même temps, ça marche pas. Mais... celle-là parle seulement de comment la ville a été construite pour ne pas avantager les femmes. Puis ça retrace justement ces propos-là. Fait que je vous invite fortement à le lire. Ce livre qui est en anglais, mais qui a été traduit aussi en français là, à travers les années.
Mais tu sais qui ne le lira pas, ce livre-là, hein?
Frankie Legault.
Absolument.
Lui aussi, c'est ça qui est écrit.
C'est un bon choix de réponse.
Mais moi je pensais
à... Il lit du Kevin Lambert, puis il comprend pas.
Moi, je pensais plutôt à celui qui est né aux États-Unis mais qui est allé vivre en Angleterre. There's a large contingent of men out there who don't want to wear makeup, who want to have money, who want to have hot chicks, and there's nothing wrong with us. Ça, là, c'était la jolie voix d'Andrew Tate, qui est même! Andrew qui joue dans la tête des garçons.
Oh, elle est bonne!
Il y a un mot.
C'est un idiot de la pire espèce. Mais c'est sûr, c'est sûr que, aussitôt qu'il entend le mot féminisme ou qu'il entend revendication, qu'il entend ci, qu'il entend ça, on dirait que ça doit distorsionner dans leurs oreilles. C'est clair qu'ils n'entendent pas. C'est ça qui me fascine. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'écouter puis de parler? Mais moi, je vais vous poser la question, les garçons. Parce que vous êtes des garçons pour moi, hein, moi je suis l'âge de vos mamans. Il est reconnu pour être écouté et je veux savoir si vous l'écoutez pas. Si vous l'écoutez, c'est pour rire de lui. Mais mettons, là, en connaissez-vous, puis je vais commencer par Flo, des gens de ton âge, Flo, qui sont en secondaire 4, qui ont 16, 15 ans. Est-ce qu'il y en a qui l'écoutent?
Oui. Oui, et il y en a qui le croient. C'est ça le pire.
Ouais,
et... Puis j'ai une petite théorie pourquoi le monde le croit. C'est quand tu l'écoutes, il faut avouer qu'il s'affirme quand il parle. Hein. Il doute pas de ce qu'il dit. Puis je pense que c'est pour ça que le monde le suit autant. Puis même du monde de notre âge qui sont clairement pas des imbéciles, hein, mais qui voient ça. Puis qu'ils disent que, étant donné qu'il a pas peur de ce qu'il dit, il doit bien avoir raison. Puis c'est juste, c'est stupide comme réflexion,
non,
mais c'est ça qu'ils pensent.
Oui, j'ai remarqué ce phénomène-là, que l'affirmation fait en sorte que ça ferme le dialogue.
Ouais.
Et ça intimide les interlocuteurs ou l'autre personne, ce qui fait que tu n'oses pas t'obstiner. Puis quand tu manques de confiance en toi, quelqu'un qui mon Dieu, il a une recette, il a l'air à savoir quoi faire, ça m'intéresse. Oui, je pense que tu as mis le doigt sur la chose.
Une autre affaire, c'est aussi tu sais, une affaire qui est assez intéressante dans ses discours, à chaque fois que quelqu'un essaye de parler d'une idée qui compte ce qu'il pense, à la place d'essayer de défendre son point, il va attaquer l'autre. Puis c'est une manière aussi comme de dévaloriser les idées d'autrui qui fait que ses idées ont l'air plus attirantes. Puis je crois que c'est encore pour ça que le monde le suit. Puis je connais plein de monde qui font juste dire lui, il est bon, sans avoir vraiment compris qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il parle pour vrai, puis comment il est en train d'attaquer le monde.
Mm-hmm. Ouais. Les Victor et Clément.
Mais il est fort en tabarouette, mais tu sais, non, mais il est fort en tabarouette dans ce qu'il fait. C'est de la démagogie puis du populisme à un niveau comme quand même assez supérieur et très, très, très bien monté. Là. Mm-hmm.
Mais ce qui est fou avec les discours, antiféministes comme ceux d'Andrew Tate, c'est qu'ils réussissent à déconstruire, dans le fond, les discours féministes pour les présenter comme une négation du devenir femme des hommes. Parce que c'est-à-dire que tous les hommes ont une certaine forme de devenir femme, une certaine forme de conception de la femme en tant que développement. Puis lui, il réussit à dire que le devenir femme que les femmes occupent, c'est-à-dire d'acquérir des droits, t'sais, puis l'égalité, ben ça, c'est une négation de l'affirmation de l'homme, alors que c'est complètement faux, parce que c'est nier que les hommes ont un devenir femme aussi.
Ça, au lieu de dire les femmes font quelque chose pour eux autres, il va dire les femmes font quelque chose contre l'homme, puis c'est très, très, très attirant pour surtout des groupes de jeunes garçons qui sont dans une société très woke,
qui
se sentent rejetés par cette société-là. Puis dans tous les phénomènes historiques, on a vu ce retour de balancier-là où quand il y a quelque chose qui s'en va trop, soit à gauche ou à droite, il y a son contraire qui arrive dans l'ombre, il y a toujours une lumière qui a créé cette ombre-là. Puis exemple niaiseux, mais mettons économiquement les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup on a genre Margaret Thatcher.
Qu'est-ce que tu dis?
Les 30 glorieuses.
OK, explique un peu.
Les 30 années, les années 50 jusqu'aux années 80, 70, avant le choc pétrolier, il y a eu une grande lancée de l'État-providence. On mettait donc beaucoup l'emphase sur les investissements dans l'État-providence. Puis tout d'un coup, après ça, tu es arrivé dans les années 80, les chocs pétroliers, qui ont fait en sorte que Thatcher, Reagan, tous ces présidents-là sont arrivés puis ont changé la donne vers une donne très conservatrice. Mmh. Fait qu'au travers de... ces phénomènes-là sont cycliques. Là on a eu une montée quand même de la gauche avec, justement, Barack Obama, qui représentait une gauche populaire plus... international, puis tout d'un coup, on est arrivé vers un extrémiste conservateur. Mais, c'est juste des tenants et des aboutissants des balanciers.
Je veux juste dire un autre exemple. C'est l'avènement des discours sur la psychologie. On l'a vu avec des discours de Freud sur la psychologie, puis après, on est venu détourner ça pour lancer l'idée de surhomme, l'idée d'un homme nouveau, d'un homme qui doit se dépasser, s'affirmer, puis créer une espèce d'idée d'un homme qui domine. Mais c'est tout ce que je voulais dire.
Aïe, aïe.
Bien, je trouve que c'est intéressant que tu amènes ça. Là, ça s'appelle le phénomène d'opportunisme politique. Là. En fait, quand la gauche se débalance versus la droite, puis la gauche s'en sert souvent, puis la droite aussi, puis c'est pour ça qu'on a un équilibre politique assez intéressant des fois. Mais, tu sais, pour répondre à ta première question, là, il y a deux semaines, à tout le monde en parle, Guy Lepage a interviewé Mélissa Blais et Léa Carrier qui a parlé aussi de ce phénomène un peu. Puis il y avait Kim Lizotte avec lui.
Oui.
Puis elle parlait justement de la détresse des hommes, puis la détresse de comme on se perd quand on est ado, puis il y a comme pas de rôle de rôle modèle. J'arrive pas à trouver des termes en français, là, mais de modèle positif de la masculinité. Puis c'est quand même un peu vrai aussi à ce niveau-là.
Ben, faudrait leur poser la question. Les gars, avez-vous des modèles? En avez-vous besoin?
Des modèles classiques de masculinité, je crois que c'est dépassé comme idée parce qu'on va s'entendre que maintenant, c'est plus représenté comme d'une mauvaise manière, les modèles de masculinité, même si c'est des idées qui sont pas fondamentalement mauvaises, c'est comme essayer de protéger les gens autour de soi, mais ça reste que... Il y a tellement eu de mauvaises choses qui ont été dites autour de ça que maintenant, c'est juste une idée qui n'existe plus puis qu'il faut changer.
Ouais.
C'est à déconstruire dans le sens qu'il faut que nos modèles deviennent aussi des femmes en tant que masculinité.
Des êtres humains, je veux dire,
il faut justement chercher à réinventer cette idée de modèle-là puis se définir soi-même en tant qu'être humain puis de trouver des modèles qui dépassent la simple barrière de quel est mon modèle de masculinité, parce que après ça, on s'en sort pas. On reste encore pris dans ce jeu-là du genre qui vient nous isoler, nous mettre dans une catégorie.
Mais je me souviens pas, Ariane, que tu fais mention que Kim mentionnait. Tu fais mention que Kim mentionnait ça. Est-ce qu'elle l'a remarqué, elle, ou toi,
dans
tes
études?
Elle
a parlé de son rapport avec ses enfants.
Mm-hmm.
Elle a-t-il des enfants? Ou le rapport avec des... Ouais. Bref, elle parlait du rapport qu'elle a eu avec des ados, puis de son rapport à elle-même à l'adolescence. Qu'elle, à l'adolescence, elle se perdait, puis elle avait besoin de modèles. Puis je pense que vous avez touché quelque chose de quand même assez important, là, de dégenrer des modèles, puis de dégenrer des pratiques.
Mm-hmm.
Puis je pense que ça, c'est peut-être une grosse clé, là, vers une solution, vers une société plus saine. Là. Mais... je pense que en général, tu sais, en psycho, on le voit souvent, là, comment, genre, tu peux peut-être revenir avec moi là-dessus, mais comment, au niveau de l'adolescence, on a besoin de se créer un genre de modèle ou un groupe qui va nous ressembler, qui va permettre de se retrouver, parce qu'en fait, on fait un peu un copier de comme qu'est-ce qui nous entoure pour nous développer après. T'sais, on crée notre premier regard pour développer notre deuxième regard. Là, notre second regard. Il y a des termes aussi. Là, je me souviens plus exactement, mais ouais.
C'est sûr que l'identité se construit en interaction avec le groupe. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait... Excuse-moi, rappelle-moi.
Victor.
Victor, tu parlais de...
C'est Louis qui parle, là.
Justement, Andrew Tate et ses discours nous faisaient... en tout cas, ramenaient aux hommes comme si le féminisme, c'était comme une négation de la masculinité. C'est comme tout un phénomène, on dirait, en ligne, plus que dans la réalité.
Ouais.
C'est comme si on érigeait une espèce de combat féministe contre les femmes veulent notre peau, nous autres, il faut se défendre. Puis là, il y a tout un côté réactionnaire, puis qui n'est pas vraiment la réalité quand tu vas parler aux gens à l'extérieur, puis dans des groupes. Je pense que c'est beaucoup plus dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile de se retrouver d'humaniser ce débat-là plutôt que le féministe, c'est une force qui veut détruire la masculinité, puis qui veut qu'on n'existe plus.
Bien, justement, dans la pièce que j'ai aimée, parce que je pense que cette pièce-là devrait être vue sur Télé-Québec, sur Radio-Canada, sur TVA, dans les écoles et un peu partout, parce que ça ratisse large, entre autres, le fait que Si on pense que c'est dans le dark web que vont se retrouver les incels d'Andrew Tate et tout ça, pas en tout. C'est facile, facile, facile de, d'avoir des communications avec ces gens-là. De toute façon, je suis pas mal certaine que, aussitôt que vous lisez des commentaires, vous envoyez des fameux trolls. Et puis, il y a une autre chose qui est dit dans la pièce qui est importante. Et c'est ça que j'essaie de faire, qu'on essaie de faire à Trait d'Union, c'est de faire se rencontrer des gens puis se parler. Si on pouvait avoir des idées divergentes, ça serait peut-être correct aussi. Bien, pas peut-être, ça faudrait que ce soit correct. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont rencontré des masculinistes. Ils leur ont parlé en vrai. Et j'ai même vu, en faisant mes recherches, un fervent de incel qui avait accepté de rencontrer des personnes qui lui posaient des questions, des femmes, des hommes, des jeunes, des plus vieux. Et puis, la conversation, à la fin, n'était plus la même qu'au début. C'est quelque chose qui a duré peut-être une heure. Puis, le discours a changé, là, parce qu'ils se sont parlé, ils se sont vus. C'est pas pareil. Tu voulais dire quelque chose?
Oui, bien, ce matin, dans le nouveau projet, il y a une entrevue qui est sortie d'ailleurs avec les idéalisateurs de la pièce Projet Polytechnique. Puis, Jean-Marc Dalphon, je crois, c'est ça son prénom, disait que lui, au début, comment les blogs étaient présentés, les blogs sur les incels, justement, ou tout, c'est surtout des blogs qui sont comme, tu te cherches, tu veux comme apprendre à te connaître, tu veux te retrouver parmi tant d'autres. Puis on va en parler, j'imagine, tantôt, là, mais tu sais, le phénomène des incels, c'est aussi de la détresse psychologique puis de l'addiction web. Là, puis ça, c'est deux autres phénomènes aussi qui sont très entraînants puis que c'est difficile de rentrer en contact avec ces personnes-là parce que c'est virtuel puis on le voit pas. Puis tu sais, cette personne-là peut aller à l'école tous les jours puis le soir rentrer sur son ordinateur puis rester sur ses forums toute la soirée. Là, puis il y a des études aussi là-dessus, mais Je trouvais ça intéressant de ramener la dimension qu'il y a quand même un phénomène psychologique, mais que c'est pas juste ça non plus. La haine envers les femmes, puis l'événement de Polytechnique, c'était pas juste de la folie. T'sais, je pense que dans la pièce, ils le disent, oui, c'est 5% ça. Des féminicides qui sont commis, mais en fait, des attentats généraux qui sont commis avec de la folie, là, pas simplement genre... Fait que c'est faux de dire que c'est un tueur fou. C'est souvent juste de la haine, tu sais.
Si on se regarde, moi, je me regarde, bon, que j'ai du caractère, peut-être que je suis pas représentative, mais moi, il y a des fois que... s'il est arrivé quelque chose à mon fils, je pense que j'aurais tué la personne qui aurait fait du mal. Là. Tu sais, je pense qu'on a tous ça en soi, mais on est...
Ah ouais, Louise.
Alexis, t'inquiète pas, Louise, elle est juste toi.
Mais il y a des événements qui nous font tilter, tu sais. Ouais. Un moment donné, là, il y a une petite cloche, tu sais, il y a une petite coche qui saute, là, puis ça peut arriver à n'importe qui. Fait que la folie, oui, je peux... Tu sais, souvent, je me dis, mais voyons donc, il est malade dans la tête, ce gars-là, là. Ben, je dis ce gars-là, mais... Hey, Louis voulait dire quelque chose? Ben non.
Mais moi, ce que je voulais dire à propos de... Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, justement, les discours masculinistes comme ça, c'est justement, comme vous avez dit, c'est pas quelque chose de nouveau, tu sais. Tu sais... Juste après les attentats de Polytechnique, il y a eu la lettre qui a été mise...
Un an après, dans le journal
de Montréal.
Après pression de divers journalistes et féministes qui étaient nommés sur la liste des 14 autres noms qui ont été nommés.
Ouais. Mais je veux dire, les mouvements de solidarité par rapport à l'épine, là, ça a été immense. Là, après,
c'est
là,
un dieu sais, pour eux autres.
Ben oui, puis je veux dire...
Saint-Lépine.
Puis
Saint-Lépine.
On voulait pas... Les gens ne voulaient volontairement pas dire que c'était un féminicide parce qu'il voulait le catégoriser comme un tireur fou. C'est plus facile de dire que ça appartient à la folie.
Il voulait diminuer l'importance que ça l'a eu. C'était le but. Il disait, on ne veut pas lui donner l'importance que
parce
ça
que
l'a
pas. Parce que sinon, ça aurait donné raison aux féministes.
Ouais.
Puis c'est ça qu'on voulait faire en disant que c'était un tireur fou puis enlever ça de la distance.
Ça ne peut pas être un acte conscient. Si c'était un acte conscient, ça devient, on conscientise. Si lui était conscient de ça, mais
c'est
pas de la folie.
Reconnaître le sexisme comme du racisme systémique.
Mm-hmm. Oui, exactement. Hey, c'est notre première demi-heure qui vient de terminer, puis on reprend ça après la pause.
Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien.
Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vite, vite, vite! Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence.
J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout. Chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi.
OK, OK, mais les cartes?
Quoi, les cartes?
Ben, les cartes de bingo. Oh,
non, j'ai complètement oublié.
Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
CIBL 105 Montréal.
La voix aux femmes. La voix aux femmes pour revenir. On va parler un peu de Polly. Ben, la pièce, on en a parlé un peu ouais, mais... quand même avant. Mais...
Moi, cette semaine, j'étais invitée à faire un discours aux commémorations de Polytechnique. Puis je pense que j'ai envie
quel honneur, Ariane.
C'était quand même un bel honneur, mais j'ai trouvé ça intimidant. Puis c'est drôle parce que dans mon discours, je parle de la liberté d'expression. Puis la liberté d'expression qui existe pour les femmes versus celle qui existe pour les hommes. Puis comment... souvent, la liberté d'expression des femmes est mise aux dépens de celle des hommes. Puis je parle du phénomène d'incel, je parle du phénomène de masculinisme. Donc, c'est pour ça que j'étais comme prête et recherchée. Mmh. Puis je pense que c'est quand même intéressant de ramener la balle aussi autour de ça, que comme c'est difficile de communiquer au final. Tu sais, même dans des discussions, des fois, on prend tellement... Je trouve que c'est difficile d'être féministe. Parce que soit on est trop, soit on n'est pas assez, dépendant du cercle que t'es. Puis on remet tout le temps ça en question.
Ben là, on est dans une période de dichotomie. Il n'y a pas de nuance, là.
Mais l'affaire, c'est que c'est nuancé. C'est ça qu'on disait, c'est que tantôt, Flo a dit quelque chose durant la pause. Puis, tu sais, tu peux le répéter, là, mais il ne faut pas mettre le masculinisme versus le féministe, parce qu'au final, le féministe, on veut pas irradier les hommes de la Terre. On veut juste non, on être pas... respecté pour qui on
comment les appelle déjà les batailleuses qui s'enlevaient un sein pour jouer...
Les Amazones.
Les Amazones.
C'est un peu qu'on voudrait être égalitaire, tu sais. On veut radier rien, mais on veut être égalitaire avec les hommes.
Oui, t'sais. En égalité.
Puis,
oui.
Tu sais, la théorie du féminisme a tellement évolué. Puis, au début des années 2000, la quatrième vague de féminisme a vraiment pris un autre élan. Moi, j'étudie en sociologie. J'ai un intérêt pour le féminisme. J'ai un intérêt pour les espaces sociaux, les espaces publics. Fait que, puis, je suis un peu nerd, là, fait que je lis sur plein d'affaires. Mais au terme de la quatrième vague, on a vu des théories sur le queer prendre beaucoup plus de place, des théories queer prendre beaucoup plus de place. Puis à mon sens, à moi, être féministe, c'est juste être inclusif, inclusive. Puis ça va dans les deux côtés. Puis tantôt, on parlait d'enlever les notions de genre. Quand on peut les enlever, les notions de genre. J'ai travaillé dans une garderie dans les dernières semaines en lien avec la grève. Puis on a eu cette réflexion-là, justement, de pourquoi c'est les petites filles qui s'occupent des petits enfants puis qui jouent avec, puis finalement, à la fin de la semaine, la vapeur était changée. C'était les petits garçons de 10 ans qui jouaient avec les petits enfants de 3 ans, puis que moi, j'étais comme, hey, mais là, c'est assez, là. C'est pas, tu sais, comme, il faut que tu participes aussi aux activités. T'sais, c'est mon rôle à moi de prendre soin des enfants, mais je trouvais ça tellement beau, à la fin de la semaine, de voir ça, cette notion de genre-là, complètement virée. Ça a pris une semaine, puis 2-3 discussions. C'est quand même intéressant, là. Puis je travaille avec des enfants qui avaient, genre, maximum 11 ans, là. Fait que je me dis que c'est possible de voir des notions de genre ne plus exister dans 10-15 ans si on commence à comme interpréter. Puis là, je sais pas s'il y en a qui veulent relancer, là. J'ai pas préparé une chronique en tant que telle, là. J'ai juste...
Je peux poser une question à la table entière, si vous voulez. À moitié avocat du diable, à moitié inquiétude, à moitié... je suis partagée. Si
c'est Marie-Lou qui parle.
Oui, c'est Marie-Lou qui parle. Moi, je suis 100% pour la déconstruction du genre. Je pense que c'est une étape qui est nécessaire et qui doit venir. Mais toutes les sous-cultures qui sont nées des genres, par exemple, de toutes les femmes marginalisées ou toutes les cultures queer qui sont descendues de justement cette marginalisation, ces mouvements de force aussi qui sont nés de cette oppression, malheureusement. Mm-hmm. Est-ce qu'on les menace à travers une déconstruction future du genre? Mm. C'est ça que...
Je vais vous laisser répondre, mais moi, j'ai une réponse pour ça.
Mais vas-y, là, parce que j'en ai pas, moi.
OK. Mais j'avoue que c'est une bonne question que tu poses. Puis tu sais, moi, j'ai déjà fait cet exercice-là d'avoir une table intergénérationnelle étudier le mouvement féministe. C'est une question qui est revenue souvent. Puis je pense pas. Je pense que c'est la suite logique, en fait. Parce que les personnes qui ont dû être... se battre pour que leur voix soit entendue, aujourd'hui, il serait correct qu'on n'entende plus les voix. C'est un peu comme la mission d'un organisme à but non lucratif. On espère qu'il n'en existera plus un jour. Parce qu'on espère que tout le monde va être capable d'aller acheter une épicerie. Tu sais, comme... je pense que c'est dans la même idée. Puis, puis après, tu sais, moi, je suis une personne assez privilégiée dans la vie quand même. Là, fait que, comme après, je pourrais pas dire pour les personnes racisées ou les personnes queer, tu sais, genre, dans la vie, je suis très proche de l'hétéronormativité, mettons, là, genre, comme... Il y a des phases, je peux parler de ma sexualité en radio. Mais genre, tu sais, comme dans la vie, je me fais pas poser de questions par rapport à mon genre ou par rapport à la personne que je suis quotidiennement, mais reste que je suis une personne grosse, handicapée, féministe qui prend de la place dans des espaces publics. Fait comme, genre, c'est sûr que comme, à ma année, j'aimerais ça juste être Ariane, puis plus devoir dire que je suis grosse, d'étiquette. Handicapée, puis genre féministe, tu sais.
Victor!
Je voudrais rebondir sur ta question que tu as posée, mais je pense que les études de genre, ce que ça amène majoritairement, ce n'est pas la déconstruction des femmes, c'est la déconstruction de la femme. La femme en tant qu'idée, en tant qu'étalon majoritaire, c'est-à-dire une femme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met au monde des enfants. C'est ça qu'on veut déconstruire. C'est pas l'idée de détruire l'idée de femme puis il n'y a plus de femme. C'est de réinventer, déconstruire cette idée-là pour réinventer une idée de la femme qui n'est plus celle que je mets au monde des enfants,
mais
qui est
plutôt... celle qu'Andrew Tate cherche, là.
C'est ça. Et une femme qui est docile, c'est de réinventer cette idée-là pour créer, dans le fond, une idée de la femme qui plaît à toutes les femmes, tu sais.
Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant de ramener Andrew Tate parce que souvent on dit « Ah, ça n'existe plus, ces violences-là. » Ça... Je suis tellement pas d'accord. Moi, dans la vie, je vis pas une vie d'une femme docile. Puis... je vis des violences quotidiennes dues à ça, des micro-violences au niveau de ma famille. Puis ma famille m'aime, là. Je sais pas qu'ils m'aiment pas, là. Mais genre, comme, il y a des questionnements quotidiens dans ma famille à propos de ça, dans mon cercle d'amis. Moi, j'ai toujours dit que c'est pas moi qui va faire le plus gros des compromis dans ma relation de couple. Puis mes amis me disaient, non, mais tu seras jamais en couple.
Ah, wow.
Mais je suis certaine qu'il y a personne qui a demandé à un homme d'arrêter de travailler pour, comme... que je puisse continuer à aller à l'école ou que je puisse... whatever. Tu sais, puis il y a personne qui a dit à cette personne-là, « Hey, c'est pas correct, puis tu trouveras jamais de relation. » Comme, je dis pas que c'est ce que je veux, là, je pense que c'est plus nuancé, mais comme, on en vit quotidiennement pour des questions. Tu sais, on parle de maternité. La maternité, c'est un sujet qui est tellement tabou. Aujourd'hui, c'est tellement... Tu sais, dire qu'on veut pas d'enfants, dire qu'on veut des enfants, dire qu'on veut des enfants différemment, c'est pas accepté. On l'a vu, Sarah Maud Beauchesne a sorti son livre « Faire la romance » qui traite de ce sujet-là dans les derniers mois, puis on n'arrête pas d'en parler. Puis à chaque fois que j'en parle avec les gens sont tout le temps comme « Ah, mais je sais pas », tu sais. Puis se remettre en question sur la maternité, c'est un peu tabou. Puis comme tu disais, là, tu veux pas, t'as pas fait full de recherche sur le sujet, mais dès qu'on remet en question des choses, on se fait remettre en question aussi, tu sais. Comme on se sent mal d'être trop nous, on se sent mal d'être trop certaines choses. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu difficile. Parce que, finalement, comme tu dis, c'est pas déconstruire la marginalisation puis déconstruire les mouvements qui se sont passés. C'est déconstruire les idées générales qui nous permettent pas d'être qui on veut dans toute notre beauté, couleur et intersectionnalité, finalement. T'sais.
Mais ça va se faire parallèlement aux batailles bien pragmatiques des conditions, des salaires et tout ça, là. Parce que c'est sûr que c'est pas fait encore, là. On est encore... Oh là là!
On est loin.
On est loin, on est loin. je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu de musique.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais, moi je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever, les filles. Comme toi c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Attention. OK, OK. C'était Suzanne qui chantait SLT, qui chantait toutes les aberrations qu'on peut entendre. Puis j'allais ajouter tantôt, quand, avant de vous passer le micro, les garçons. Quand on était petites, je ne sais pas vous autres, France, dans ton temps, mais nous, on ne savait même pas c'était quoi le sexe. Puis on se faisait harceler, calique.
Oui, c'est vrai. Filles.
Il y a des petits gars à qui c'est arrivé. C'est sûr, on entend plus parler maintenant, parce qu'il y en a qui osent dénoncer. Mais maudit que c'était sexualisé quand nous, on n'avait aucune idée, là. C'est fou, là. On a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Là, maintenant, c'est l'heure. Parce que, est-ce que vous allez parler d'initial? Vous allez parler de quoi? Ben, parce que Victor et Clément, là, nous ont préparé quelque chose.
Mais dans le fond, quand on m'a dit, dans le fond, qu'on allait parler de mâle alpha...
T'es de la génération alpha. Dans le fond, toi?
Dans le fond.
Oui, il est
dans
une génération de pas de surface.
On va au fond des choses.
Oui, oui, exact. On est des journalistes d'enquête.
5.5 FM, on va au fond des choses.
Deux hommes en or.
Yes, sir. Mais c'est ça, quand on m'a dit qu'on avait parlé de mâle alpha puis d'incel, j'ai un peu cherché dans les sources historiques. Puis Clément et moi, on a trouvé une archive, dans le fond, de Radio-Canada qui, dans le fond, fait un vox pop, là, une espèce de vox populi sur l'idée du mâle alpha. Fait que je l'ai envoyé, puis on va pouvoir vous faire jouer ça, là. Donc, bonjour, monsieur. Pour vous, à quoi renvoie l'idée d'un mâle alpha?
Ah ben, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un de très lettré. Je suis allé à l'école avec Marie-Victorin.
Ah oui, vous avez fait votre cours classique.
Oui, j'ai fait la préface de Flore Laurentienne. Alors, pour moi, j'ai une vision très académique de la femme, qui est une vision quand même assez, comme on pourrait dire, moderne.
Oui, mais à quoi correspond cette vision académique?
Ben, vous savez, ma femme, elle est vendeuse avant. Elle se promène, elle est vendeuse avant. Alors, ça lui donne une certaine indépendance. Je lui laisse un peu de son salaire avant.
Vous êtes un homme moderne.
Je suis très moderne. La modernité, je suis quand même à l'apoplexie de la modernité, je pourrais dire. Alors, moi, c'est sûr qu'avec ma femme, nous avons cette, comment on pourrait dire, des relations de dominance et de dominé, mais tout ça dans...
Mais comment s'expriment ces relations-là de dominance, là?
Ben, elle m'écoute. Tu sais, elle m'écoute. Puis c'est sûr que moi, j'ai le fameux de l'histoire.
Ah oui.
Hein?
Tant quand même.
Tant quand même.
Vous êtes le père de famille.
Je reste. J'ai la testostérone. J'ai le fameux de l'histoire. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, on rejoint quelqu'un dans la rue. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous, vous faites quoi dans la vie, monsieur?
Moi, je travaille pour la Imperial Tobacco Company.
Imperial Tobacco Company.
C'est sur Sainte-Catherine dans l'Est.
Ah, ok. Mais...
Pas loin du Faubourg-Saint-Laurent.
Alors, à Radio-Canada, on se posait des questions. On vous demande, pour vous, qu'est-ce qu'un mâle alpha?
Ben, un mâle alpha. Moi, je vous dirais qu'un mâle alpha, là, c'est quelqu'un qui va au-devant des choses, qui prend les choses en main, puis qui travaille, qui est à l'ouvrage pour le bien de sa famille. Comme un peu notre bon maire Drapeau, là, notre bon maire Jean Drapeau. Ça, c'est un homme, ça, c'est un mâle alpha, je vous dirais.
Drapeau, le mâle alpha?
Oui, j'aime bien ce qu'il a fait là, avec la corruption, là, avec son ami. Là.
Oui, oui.
Son ami, le j'ai oublié c'est quoi
très
son nom.
Très beau métro.
Pacific Plant, tu sais, ça, cherchait son oui. nom. Oui, qui a, oui. Il a nettoyé la ville des cochonneries qu'il y avait. Là.
Mais le Red Light District, il n'y avait plus besoin. Là. Il y avait la Faubourg Ramlas, des guenons au pied carré.
Amené, je vous disais, on se serait cru dans les bas-fonds.
Bas-fonds?
On se serait cru à Paris. Avec
Paris, Vegas.
Avec les bohèmes, là. Moi, je vous dis.
Mais pour revenir à la question de base,
oui.
La femme dans votre relation, elle occupe quelle position?
Ben, je vous dirais la position du missionnaire. Oh non, je rigole, vous me connaissez, je suis un taquideur.
Très bonne.
Mais écoutez, la femme, elle s'occupe de la famille, s'occupe des enfants, puis moi j'ai beaucoup de respect pour ça, vous voyez. Sinon, comment est-ce que je vais faire pour préparer mon craft dinner, voulez-vous?
Je comprends.
Je suis un peu en mauvaise position si je respecte pas ma femme.
Ben écoutez, merci pour ces bonnes réponses.
Donc, on rejoint une autre personne qui va nous parler de l'idée... qu'est-ce que ça renvoie pour vous, l'idée d'un mâle alpha?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors pour moi, un mâle alpha, c'est quelqu'un qui s'affirme au travers intrinsèquement de la domination de l'autre, des enfants, tu vois. Alors moi, pour moi, je veux le repas prêt. C'est central. Et dans mon repas, je veux des légumes verts.
Vous m'apparaissez comme quelqu'un d'affamé.
Je suis quelqu'un de très familial et affamé. J'ai faim de famille, j'ai faim de toi. Mon seul problème, c'est que ma femme a des demandes depuis qu'elle a eu le droit de vote. Et des fois, l'enfer, c'est rouge et le paradis, c'est bleu.
Oui. Est-ce que vous allez avec votre femme au bureau de vote, monsieur?
Bien sûr. Je vais même dans le cubicule avec elle, car elle ne sait probablement pas comment utiliser un crayon.
Il faut qu'elle fasse un choix réfléchi.
Exact. Bon. Mais la société change. La société change.
Oui, en effet.
Alors, nous sommes bonsoir à la radio de Radio-Canada. Alors, nous allons interviewer ce soir une très chère dame qui va nous parler de sa relation de genre. Bonjour, madame.
Oui, ben moi, je vous dirais que si on parle de mâle, là, d'un bon mâle, ben c'est sûr, on parle sûrement pas de mon épais de mari.
Ah.
Parce que lui, il passe ses journées à taverne, puis quand il est pas à taverne, il écoute les expos sur son radio portatif. Je sais plus ce qu'il fait chez nous. Moi, qu'est-ce que je fais quand je torche la maisonnée, quand je travaille pour nourrir cette famille-là. Lui, il arrive à la maison, il dit qu'il est fatigué. Moi, c'est pas un mâle, ça, c'est un cochon. C'est un vrai cochon.
Ah, mais avec une voix mâle comme la vôtre, c'est sûr que lui peut sentir que sa féminité ressort un peu plus, non?
Écoutez, mon docteur m'a dit de fumer des Lucky Strike parce qu'il disait que je fumais trop d'export. Moi, Mané, j'écoute le bon docteur. Là, ça va pas... Vous faites des affaires de vouée, là. J'aimerais bien vous entendre, vous.
ça date de 1956. C'est une belle archive qu'on vous a trouvée.
C'est une excellente archive.
Je pense
beaucoup
que ça parle d'une époque révolue. Ça fait plaisir.
Ben oui, ben la modernité nous a frappés.
On
le temps a changé. Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Oh mon Dieu, c'est vrai ça?
Oui, c'est une vraie archive.
C'est vrai.
C'est vrai. Sérieux?
Mmh. Oui, on l'a envoyé.
Travail de fond ici.
Oui, on recherche.
Écoute, de mon vivant, quelle année t'as dit?
57.
Ben c'est ça. Je suis là-dedans.
Je sais même pas si le maire Drapeau était là.
Non, maire Drapeau, il m'a dit 57, j'ai fait chier, j'étais comme là, pas sûr.
Ok, on va tout
faire. Probablement qu'il y avait plusieurs années là-dedans.
C'est ça.
Mais donc, dans une génération, là, la mienne, là,
ouais.
La fin des boomers, on a vu ça, là.
Ouais.
On a vu cette évolution lente. Puis moi, en tant qu'enseignante, puis déléguée syndicale, je me souviens très bien de m'être obstinée. Puis je vous l'ai dit plein de fois, mais je me répète. Je me suis obstinée tellement de fois que c'était injuste, que c'était des luttes féministes, parce qu'on était des femmes, que les jobs d'enseignantes et d'infirmières et peut-être, peut-être. Puis ça a vu. Oh, je sais pas ce que je vais dire.
C'est difficile, hein,
parce que... Non, mais attends. C'est parce qu'il faut que je le dise pareil, il faut que je le dénonce. Parce que je chialais, on m'a demandé si j'étais lesbienne. C'est fou, hein?
Oui.
Vous étiez mal baisée.
Non, mais c'est ça, c'est difficile de parler des violences qu'on vit. Moi, je trouve ça... Tu sais, parce qu'on les vit encore, des fois. Enfin, en tout cas, c'est spécial d'être dans cette position-là. Mais je suis désolée que tu aies vécu ça, c'est vraiment horrible.
Ah, ben, en tout cas. Je regardais comme... En fait, Ça m'a abasourdi, puis j'ai regardé comme... J'ai dit, coudonc, c'est-tu des... C'est des Cro-Magnons, ces gars-là,
ouais,
là?
Mais comme si tout était relié à ton sexe, tout était relié juste à ça, puis... Hey, même si t'es lesbienne, là, en tout cas...
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir.
Marie-Lou?
Moi, c'est... ce que je vais apporter, c'est plus personnel. C'est pas quelque chose qui est réfléchi tant que ça ou recherché. Mais je tiens à dire qu'à l'université, moi, qui est toute nouvelle, ma première session complètement, dans un programme qui est majoritairement d'hommes, je suis en philosophie et en sciences politiques, j'ai eu beaucoup de difficultés à assumer ma féminité. J'ai souvent, en rentrant en classe, j'ai souvent eu peur d'être trop féminine, de déranger avec ma féminité. Et un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et que j'avais lu au cégep, c'était La femme qui fuit, bien évidemment. Ouais. Et le symbole qui est Suzanne Meloche, et j'ai un moment en tête de ce livre où Suzanne s'apprête à faire un discours politique. Elle commence son discours et elle se rend compte qu'elle oublie de mettre son rouge à lèvres. Elle s'arrête, elle met son rouge à lèvres et elle continue après. Et ce moment reste dans ma tête. Et quand je me sens comme si j'étais trop féminine, comme si c'était mal placé, je pense à ce moment-là, puis je me dis non, prends un temps, puis embrasse là, cette féminité-là, et c'est tout.
Mais on revient au modèle, je trouve, un peu, avec cette histoire-là, parce que on a de la misère à assumer qui on est, tu sais, à moitié gars, à moitié fille, lesbienne, pas lesbienne, féminine, pas féminine. Ah, oh, ce que c'est épuisant, tout ça, là. Mais je te dirais que les stéréotypes, quand j'étais jeune, c'était clair. Ouais. Là, j'avoue que pour vous autres, ça doit être un petit peu plus compliqué. Ben,
moi, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que j'ai aussi vécu ça. Genre, dans la vie, comme je suis dans le monde politique, puis quand j'ai commencé à plus l'être, j'ai réalisé que je portais plus de robe, puis que je portais plus de couleur pastel, puis que je m'habillais complètement en noir. Puis aujourd'hui, je porte une robe mauve.
Regarde-moi, tout en noir, qui mène mon cou.
Non, mais c'est de la déconstruction. Puis quand je l'ai mis ce matin... J'étais même pas certaine, parce que j'étais comme, hey, je m'assois autour d'une table. Puis moi, je savais pas du tout avec qui j'allais m'asseoir à cette table. Je savais qu'il allait avoir Louise. Louise et France. Je savais que comme j'avais vous deux, je savais pas si j'allais avoir des hommes qui sont vraiment dans l'idée de comme, hey, le féministe, c'est mal. Puis en même temps, quand je me suis habillée, puis quand j'ai mis ma robe, j'étais comme, ben fuck off, je vais être féminine aussi, parce que je peux être politique et être féminine. Puis je me rappelle exactement de ce moment dans le livre de Anaïs Barreau-Lavalette. Parce que Suzanne Meloche utilise son rouge à lèvres.
Quelle partie?
C'est au début, quand elle est dans un de ses premiers speeches avant de rencontrer Marcel.
C'est ça. Puis c'est vraiment un bon livre, je vous le conseille fortement. Moi, ce livre-là, ça a été une révélation dans ma manière de percevoir ma féminité, puis dans la manière dont
la littérature
je me... Oui, vraiment. Puis c'est comme un peu une protection qu'elle utilise aussi, sa féminité. C'est comme si c'était la dernière barrière qu'elle mettait avant de partir, un peu comme
son
power suit.
Oui, justement, c'est sa dernière barrière, mais c'est le premier affront. C'est la première chose qui va venir chercher les gens, et c'est avec ça qu'elle joue. Si tu me regardes pas en tant que femme, tu vas me regarder au moins en tant que féministe enragée, et c'est tout ce que je recherche.
Oh, wow.
Tu sais, écoute-moi un peu.
Je me souviens pas de ça.
Mais je pense que c'est des moments aussi qui sont très abstraits. Puis que chacun peut lire une interprétation différente. Puis que je me souviens que j'ai fait un séminaire sur ce livre-là dans ma classe. Mm. Puis qu'après, il y a plein de gens qui l'avaient vécu et lu de manière différente.
Fait
que je pense que comme...
Ça va avec l'expérience.
C'est ça, dans nos référents.
Puis on parle d'une femme, là, qui... Ça fait quand même... des années 50, à peu près? Qu'elle s'assume comme
quelle
ça.
Quelle femme?
Suzanne Meloche.
La mère.
Suzanne Meloche, c'est...
70,
refus global, c'est pas 40...
Mais vous parlez pas de la famille qui fuit, là?
Oui, c'est ça. C'est comme autour du refus global.
Ouais.
Fait que 48, c'est à la fin de la Révolution tranquille.
Ouais.
C'est plus 48-50.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Mais c'était rare en tabarouette, là.
Parce qu'en fait, la femme qui fuit parle aussi des épisodes des femmes qui fuyaient les familles puis qui abandonnaient carrément leur rôle parental et matrimonial et genré, justement, là, dans l'idée de déconstruction de genre. Puis Suzanne Lelouch, qui était la grand-mère, je crois, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, a quitté sa famille complètement pour aller vivre à Ottawa. Et elle est morte à Ottawa aussi, au début des années 2000.
Elle va vivre aux États-Unis après.
Ouais, c'est ça. Puis elle... En fait, à travers tout ça, en fait, Anaïs la connaissait pas du tout. Puis c'est quand qu'elle va vider son appartement qu'elle apprend à la connaître. Puis c'est un peu comme l'histoire de la fascination qu'elle a créée pour sa mère, pour cette grand-mère-là qu'elle n'a jamais connue. C'est quand même intéressant comme livre, là, je vous conseille.
Oui, ben, c'est parce que c'est inusité, mettons. C'était pas courant à l'époque.
C'est ça.
Et c'était très jugé socialement, mon Dieu. Flo?
Oui, mais vous arrêtez pas de parler d'assumer sa féminité, d'assumer sa masculinité. À un moment donné, on peut pas juste assumer qui on est nous-mêmes.
Ben oui,
parce qu'il y a bien du monde. Il y a personne qui va fitter parfaitement dans le cadre de « moi, j'assume ma féminité, moi, j'assume ma masculinité, j'assume un petit peu des deux, j'assume... » Qu'est-ce qu'on est supposé d'assumer? Il faut arrêter et déconstruire cette idée-là d'assumer... Et une personnalité précise, fais juste assumer que t'es toi-même, puis fuck le monde qui pense que t'es autre chose.
Bravo, Flora!
Je pense que c'était important de me réapproprier ma féminité à l'époque parce que j'avais glissé du côté de la masculinité, puis même si je suis d'accord avec toi que les rôles devraient pas être genrés ou binaires, le fait que la société me pousse à abandonner carrément cet aspect-là de moi.
Mais c'est une question de génération, hein?
C'est ça. Mais je trouve ça beau parce que je l'ai dit tantôt pendant la pause, j'ai l'impression que vos générations, c'est la Marie-Lou, puis la tienne, vous êtes plus proche en âge que moi et Marie-Lou, on l'est, mettons, là.
En millennial Z et Alpha? C'est Alpha, c'est ça?
Toi, t'es Z, toi, t'es Alpha, toi, moi, je suis millennial.
Non, moi, je suis pas Alpha, pas en tout. Moi, je suis Z.
Mais t'as quel âge?
16 ans. Je pense que c'est Z.
OK. Mais dans tous les cas, tu sais, toi, t'es autour de début vingtaine, si je me souviens bien, t'as 21 ans.
Mais là, encore une fois, on est en train de statuer des genres dans le temps, tu sais. Anyway. Tu sais, t'es comme ça, moi, je suis ça.
Hey, c'est beau tout ça, mais là, on a un jeune de 10 ans, lui, on connaît son âge.
Ah oui, j'aime ça, ça.
Qui a préparé une chronique sportive, puis on va l'écouter.
Aujourd'hui, Julien est tout à fait à propos puisqu'il nous parlera d'une grande sportive.
À ton tour, Julien.
Bonjour, Louise. Aujourd'hui, je vais vous parler de la joueuse de soccer Christine Sinclair parce que mardi, elle a terminé sa carrière internationale à Vancouver contre l'Australie. Ils ont gagné 1-0. Elle a marqué le sport canadien en participant plus que 20 fois à l'équipe nationale du Canada. Elle a remporté 14 fois le titre de meilleure joueuse canadienne. Christine Sinclair et son équipe ont remporté 3 médailles aux Jeux olympiques. On se souvient d'ailleurs tous de la médaille d'or remportée en 2021 à Tokyo. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est que Christine Sinclair est la joueuse avec le plus de buts à l'international, homme ou femme confondu. C'est donc un modèle pour plusieurs personnes.
Et plusieurs femmes! Quel bon choix, Julien! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était... Ah, je suis très heureux. On est heureux tout le monde, hein? Ailleurs, il a bien fait ça, hein, Julien? Ah,
il est bon. Excellent.
Toujours une joueuse de soccer. Hein? C'est comme quoi, Andrew, il est d'un patate complètement. ben là, l'émission achève. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter avant de partir.
Plaisir.
Paléontologue.
Respect.
Ben moi, j'aime l'idée de Flo d'abandonner les cases, là. Fait que freestyle. Tu sais.
Freestyle.
J'espère qu'on va arriver à ça dans 10 saisons.
Être soi-même.
Ouais. Ah ouais, comme Flo le disait. La semaine prochaine, on reçoit Alejandra Zaga-Mendez, qui est responsable des dossiers qui touchent à l'environnement pour Québec solidaire. Il sera question de claim minier, mais de bien d'autres préoccupations pour la planète. Beaucoup. Notre planète qui a mal. Il n'y a pas juste les femmes, la féminité, la féministe, le pas en tout, rien du tout, le soi-même qui a mal. Hein? C'est ça que tu veux, hein? Juste soi-même, être soi-même. C'est toute la planète aussi qui souffre. Fait que c'est le mot de la fin, gang. Puis,
qui disait « I am every woman »
I Am Every Woman, c'est donc bien beau, ça.
C'est Madonna ou Beyoncé?
Je pense que c'est Madonna.
C'est Madonna.
Ouais.
Ah, Madonna. I Am Every Woman.
Ah, bon, ben, Beyoncé, bravo. C'est oui. Alors, nous sommes tous des hommes, des femmes, nous sommes des êtres humains, puis on vous attend la semaine prochaine. Ça va être encore une autre bonne émission. L'avant-dernière, avant notre party de Noël, on va avoir du fun le 22, puis la semaine prochaine et tout. Fait que, bien, à la semaine prochaine, puis bonne fin de semaine, puis profitez de demain, parce que samedi, ça a l'air qu'il va pleuvoir fort, 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 fort,
bisous,
fort.
Bisous, bisous.
Bye. Bye. Bye.
L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
J'écoute Lire et délire. Tu connais?
Non, c'est quoi?
Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, Quatre Schnappants vous présente des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal.
La radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.